Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous. Je suis avec Esther Perel. Esther, pour ceux qui la connaissent pas, elle est auteure de deux livres, L'intelligence érotique et Avenir, je t'aime, je te trompe. Tu es thérapeute de couple, tu as un podcast sur la thérapie de couple, tu es conférencière, tu as deux TED qui ont été vues plus de 21 millions de fois. Tu as été élue meilleure speaker à Southwest cette année. Et nous, on se connaît, on s'est rencontrés à Thanksgiving chez toi. Et sur ce sujet d'ailleurs, le sujet du couple. Et donc je suis vraiment vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu demandes aux personnes à Southwest, j'adorerais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ferment les yeux pour nous écouter, parce que ça touche vraiment l'âme. Pour parler du futur des relations, c'est vrai que c'est intéressant, parce que aujourd'hui, quand on parle du futur, on pense au marketing, au commerce, aux voitures, à l'intelligence artificielle, etc., etc. Et effectivement, toi, ce que tu rappelles, c'est qu'aujourd'hui, le plus important dans nos vies, ça reste les relations, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ces dernières années ou dernières décennies. Et du coup, je voudrais te demander, mais qu'est-ce qui a changé vraiment, finalement?
C'est-à-dire que c'est intéressant, parce que j'ai pensé à ça à une des conférences tech où j'étais allée, et ils faisaient une série de moonshots. Ils faisaient un moonshot sur le transport, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur l'éducation, sur le futur du travail, sur le futur des robots, sur le futur de tout, sauf sur le futur de la chose qui nous préoccupe finalement le plus, qui sont nos relations, puisque c'est quand même la qualité de nos relations qui va déterminer la qualité de notre vie. Et pas la qualité uniquement de notre travail ou de ce qu'on aura accompli ou atteint. Et donc, je me suis levée, j'ai dit, mais vous savez, c'est impressionnant, parce que s'il y a bien un domaine dans notre vie qui est en train de changer si rapidement, c'est le relationnel. Toutes les règles du passé, les structures d'obligations, de devoirs, les grandes décisions qui étaient prises pour nous, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient qui on épouse, qu'est-ce qu'on va faire, quelle éducation on va avoir, dans quelle religion on va grandir et vivre jusqu'à sa mort, qui a le droit d'imposer ses désirs sexuels, qui va se lever pendant la nuit pour aller nourrir ses petits-enfants, enfin, tout était décidé. Or, on se retrouve dans un modèle où toutes les grandes décisions, c'est nous qui devons les prendre. On a une liberté comme on n'a jamais eu, et un embarras du choix comme on n'a jamais eu, avec toute la confusion, l'incertitude et la solitude qui s'accompagne avec.
Et alors, ce que tu dis, c'est qu'il y a... Il n'y a pas forcément de solution simple, parce que finalement, on pourrait se dire, bah alors c'est quoi la solution de la relation aujourd'hui, ou comment je peux résoudre ces histoires de tromperie ou toutes ces choses, mais que finalement, c'est vraiment beaucoup de paradoxes à équilibrer. C'est quoi les paradoxes que les gens doivent équilibrer finalement?
Le premier paradoxe, c'est que avant, chacun connaissait sa place. On avait une identité qui nous était donné, on avait un sentiment d'appartenance, on avait un sentiment de communauté, et on avait très peu de liberté et pas beaucoup d'expression individuelle. Quand je dis avant, je parle même de 100 ans avant, quoi. Et là, aujourd'hui, le cœur des relations, c'est la communication, c'est la conversation. Tout se négocie. Et pour pouvoir négocier, il faut pouvoir bien communiquer. Or, on n'a pas toujours le vocabulaire ni les ressources pour avoir ces conversations qui sont parfois difficiles, qu'on ne sait pas comment aborder et qu'on n'a jamais eues. Alors, les paradoxes qu'on doit gérer aujourd'hui dans le relationnel, d'abord, ça commence avec ça. Quelle est la relation entre le moi et l'autre? Dans quelle mesure est-ce que je conduis, est-ce que je mène mes relations dans une culture d'autonomie et je pense d'abord à mes besoins à moi? Et dans quelle mesure est-ce que je mène mes relations dans une culture de loyauté et je pense d'abord à ce que les autres attendent de moi? C'est la même chose quand on élève ses enfants. Est-ce qu'on élève ses enfants dans une culture d'autonomie ou dans une culture de loyauté? Est-ce qu'on nous apprend à être conscient et éveillé par rapport à nos besoins ou par rapport aux besoins des autres et de notre sensibilité par rapport à ça? Et donc, ça répond à la question de quel est le droit que j'ai par rapport à la poursuite de mon bonheur? Et est-ce que mon bonheur, je peux le poursuivre même s'il a des conséquences néfastes et douloureuses parfois pour d'autres? Quelle est la place de l'individu au sein du groupe? Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est que dans le couple intime, certainement dans le couple romantique, on espère aujourd'hui recevoir avec une personne ce qu'on attendait avant de tout un village, de toute une communauté. J'attends de mon partenaire qu'il soit tout ce que j'attendais avant d'un partenaire, qui était d'avoir une famille, d'avoir un compagnon, d'avoir un soutien économique, d'avoir peut-être une famille. Mais en plus, je veux que mon partenaire soit mon meilleur ami et mon confident et mon amant et mon amante, ma maîtresse. Enfin, j'attends finalement de vivre avec la même personne les besoins d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de dépendance, d'appartenance, mais je veux aussi avec la même personne vivre l'aventure, la nouveauté, la surprise, l'inconnu, le mystère, la passion. Et tout ça avec une personne dans souvent des réseaux qui sont de plus en plus restreints et réduits. Donc tous les besoins que la communauté nous donnait, nous satisfaisait, tant bien que mal. Aujourd'hui, on les redirige vers une personne qui devient cette âme sœur dans laquelle on investit pratiquement toute sa vie et surtout qui devient l'antidote de toute la solitude existentielle qu'on peut ressentir.
Il y a vraiment cette histoire de d'âme sœur. Je pense que le principe d'âme sœur, on nous l'a servi dans les contes pour enfants, on nous le sert dans les films. Et c'est vrai que cette recherche, et on va parler après des sites de rencontres et donc du choix auquel tu faisais référence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des situations, on a un choix immense et pourtant, on s'est jamais senti aussi seul, finalement. Cette âme sœur, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'il faut vraiment le chercher? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, finalement, dans les relations amoureuses, ils cherchent à se compléter, c'est-à-dire que plutôt que de se dire je suis un et entier, ils vont aller chercher chez l'autre des choses qui leur manquent dans une certaine mesure, non?
Alors, il y a les deux. D'abord, l'âme sœur, le concept est fantastique. C'est-à-dire, l'âme sœur, le soulmate, comme on dit en anglais, pendant toute l'histoire, ça a été Dieu. C'était un concept religieux. Et je pense que l'âme sœur transformée en être humain fait partie d'une société qui a perdu souvent ses ancrages religieux, qui est devenue laïque. Ça fait partie de la laïcité. Donc, on investit dans l'amour romantique ce qu'on recherchait avant dans le sanctuaire de Dieu. L'extase, le sentiment d'appartenance, le sentiment de sens, la plénitude, enfin, toutes ces choses qui étaient des expériences spirituelles religieuses, aujourd'hui, on les recherche dans le domaine relationnel. C'est assez étonnant de voir combien avec la laïcisation de la société, c'est l'amour et surtout l'amour romantique qui a pris la relève de cet univers dans lequel on va aller rechercher toutes ces choses. Ensuite, il y a le fait qu'on ne le recherche pas à 15 ans, ni à 18 ans, ni à 19 ans, on le recherche à 29 ans. Donc, on se retrouve à chercher cette âme sœur après 15 ans de nomadisme sexuel et relationnel. Et on n'a pas le choix entre deux personnes au village, ni on n'a pas le choix entre 15 personnes à la fac ou au travail. On se retrouve avec 1000 personnes au bout des doigts. Non, mais c'est extraordinaire. On sait dans toutes les recherches que d'avoir un choix plus grand que 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup mieux, ça nous donne beaucoup plus de liberté, de capacité d'être assertif, etc. Mais un choix de 1000, mais ça nous rend complètement débiles. On sait plus quoi. Et on est tout le temps en train de se demander que cette âme sœur, elle va surgir au-delà de tous. Et elle va nous montrer avec des grands gestes, c'est moi. Et la cacophonie va s'arrêter et on va En fait, comme je dis souvent, je veux dire, le nouveau geste, le nouveau rituel d'engagement, c'est quand je comment tu dis, tout délite.
Supprimer les applications.
Quand je supprime mes applications. C'est-à-dire, je ne cherche plus parce que je t'ai trouvé et tu m'as captivé et tu as captivé au-delà de tous les autres et tu as résolu mon problème d'incertitude et mon problème de doute que j'ai par rapport à cette recherche qui devient de plus en plus difficile.
Et il y a aussi cette histoire de sexe. Tu parlais de sexe tout à l'heure. On est passé d'un sexe reproductif à un sexe récréatif, parce que avant il n'y avait pas vraiment de moyens de contraception finalement. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est quoi les implications de ce sexe récréatif, en particulier peut-être sur la tromperie justement?
Mais oui, mais tu vois, on emploie des termes mariage, intimité, infidélité, monogamie, sexualité, confiance, genre, ce sont des mots qu'on utilise encore toujours, comme on les a toujours utilisés, mais pour chacun de ces termes, le contenu, le sens a changé complètement. Et c'est très important de définir les termes, sinon on utilise un langage et tout le monde pense qu'on parle de la même chose quand on parle de choses vastement différentes. Alors, quand il s'agit de sexualité, c'est assez clair. Pendant toute l'histoire, la sexualité était un atout économique dans le couple, dans le mariage, dans le couple établi. Je ne parle pas que de la passion qui a toujours existé, mais elle n'existait pas nécessairement à l'intérieur de la relation de longue durée et établie. D'ailleurs, elle était toujours vouée à la mort. Les couples passionnels, ils terminaient pas bien, quoi. Et donc, on avait une sexualité reproductive parce qu'il fallait beaucoup d'enfants qui étaient des atouts économiques qui aujourd'hui sont devenus en fait l'inverse. Ce sont des drainages économiques, je dirais presque. On a séparé la sexualité de la reproduction. Et en faisant ça, on est passé d'un modèle de la sexualité qui était purement biologique, ça faisait partie de notre condition, c'était quelque chose qu'on faisait, à quelque chose qu'on a socialisé et qui est devenu maintenant un élément de notre identité. Ce n'est plus juste ça, quelque chose que je fais, c'est quelqu'un que je suis. Et aussi, on a, en tout cas en Occident, changé un petit peu le modèle comme quoi c'était aussi un devoir conjugal de la femme. C'est tout, on ne lui a jamais demandé si elle avait envie, si ça lui faisait plaisir, si elle se sentait bien, si elle y trouvait de la joie. C'était un devoir. Et on est passé du devoir au désir. Et le désir, c'est que je deviens maître de ma volonté. En anglais, c'est très succinct, ça dit « to own the wanting ». Je maîtrise, ma volonté est à moi. Parce qu'on peut forcer quelqu'un à être sexuel, mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à vouloir. Le vouloir est un élément, une expression fondamentale de notre liberté et de notre souveraineté. Donc, on est passé à un modèle de désir. En plus, on est passé à un modèle où dans le relationnel, en tout cas, il y a un lien entre le bonheur sexuel et le bonheur du couple en général. Ça fait partie l'un des deux. La satisfaction de l'un est un indicateur pour la satisfaction de l'autre. Maintenant, on passe encore à un autre modèle qui est, on sépare la reproduction de la sexualité. Donc, on a d'abord séparé la sexualité de la reproduction. Maintenant, on sépare la reproduction de la sexualité. Et cette sexualité, en passant par le mouvement gay qui a introduit l'identité, le concept d'identité sexuelle, le mouvement féministe qui a introduit le rapport de pouvoir entre les genres et que la sexualité n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui un élément d'égalité, d'expression égale ou de droits égaux, etc. Et on se retrouve à un modèle récréatif qui est dans la jouissance, dans le plaisir, qui est super, et qui, de plus en plus, est aussi dans la désaffiliation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. C'est-à-dire que le moins il y a de rapports, ce n'est plus juste une question d'histoire, même si c'était une histoire d'une passade, d'une nuit, mais il y a une histoire, il y a un script, il y a un début, il y a une fin, comment dire en anglais, there's a plot, il y a un script dans ces... et il y a plus maintenant c'est de plus en plus commodifié en fait, c'est-à-dire que le récréatif est passé au commodifié, pas pour tout le monde et pas toujours, mais c'est un des éléments de changement fondamental.
Et un des éléments aussi, et tu y as fait mention, c'est que à partir du moment où le sexe doit être voulu, enfin voulu, forcément il doit être voulu, mais cette histoire de désir, ça veut dire que les deux doivent désirer au même moment la même personne sur le long terme. Il y a aussi ça qui est
évident,
en jeu finalement.
Bien sûr, c'est pas évident.
C'est ça.
Parce que si on n'a plus besoin d'avoir 8 enfants pour lequel il fallait en avoir 10 parce que deux n'allaient pas survivre et que ça confirmait une activité régulière, en tout cas pour une certaine durée, aujourd'hui après. Si on n'en a pas, qu'on a choisi ou qu'on ne peut pas avoir d'enfant, c'est déjà une chose. Si on en a un ou deux ou trois au grand maximum pour la plupart, il n'y a plus qu'une raison pour rester intime avec son partenaire, c'est qu'on y prend du plaisir et qu'il y a une intimité, il y a une connexion. Donc plaisir et connexion sont les deux motivations essentielles pour rester actif sexuellement au sein d'une relation de longue durée. Tu sais, pendant toute l'histoire, la monogamie, c'était une personne pour la vie. Aujourd'hui, la monogamie, c'est une personne à la fois. Dans chaque relation, je suis monogame. Mais ça n'a pas du tout le même sens. Pendant toute l'histoire, quand on se mariait, c'était pour avoir des relations pour la première fois. D'ailleurs, souvent, on se mariait pour avoir des relations pour la première fois ou parce qu'on en avait eu et qu'on attendait un enfant. Aujourd'hui, on se marie ou on se met en couple, peu importe si c'est avec mariage ou pas, et on arrête d'être sexuel avec d'autres. Donc, l'exclusivité n'a plus du tout le même sens.
C'est vrai.
Et c'est tout autre chose ce renoncement aujourd'hui qui fait partie de cette âme sœur que j'ai trouvée pour toi. J'arrête mon vagabondage pour toi. Je vais me remettre dans un modèle que je n'ai pas vécu depuis X années, parce que c'est la vache sacrée de l'amour romantique. C'est l'idéal romantique du moment, quoi.
Et puis, il y a un élément que tu as dit aussi que je trouve qui est extrêmement important. Je sais pas si les gens ont fait attention, mais avant, le couple, c'était quand même une sorte d'organisation économique. Aujourd'hui, ce qui définit un couple, c'est le bonheur.
Oui, ouais, sauf au divorce. Quand ils se divorcent, oui. Quand ils se séparent, tout le monde se rend très vite compte qu'il y avait une entité économique bien ancrée là-dedans dont on ne voulait pas parler. Et parfois, tout en étant romantique et gougou gaga au début, ils sont quand même assez acharnés sur les contrats prénuptials. C'est une demi-vérité, en fait, cette histoire.
C'est pas faux. Et alors, justement, pour parler du digital, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, enfin, tu y as fait un tout petit peu mention. Quand on pense digital, on pense, enfin, moi, je pense en tout cas à deux choses principales que sont les smartphones et les sites de rencontres. Et dans les deux cas, en tout cas, j'ai l'impression, ça me fait penser à solitude. Solitude parce que quand t'es dans un couple et que l'un est dans le, enfin, que les deux sont dans le lit, mais que l'un est sur son smartphone, il y a une forme de solitude qui se crée chez l'autre. Mais sur les sites de rencontres, finalement, t'as beaucoup de choix. Mais tu te sens extrêmement seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que quand t'as autant de choix devant toi, finalement, t'as pas l'impression. Enfin, ce que ça te renvoie, c'est que finalement, ça marche pas. C'est-à-dire que le one and only qu'on t'a promis depuis ta plus tendre enfance, finalement, tu le trouves pas. C'est quoi l'impact du digital pour toi sur la relation amoureuse aujourd'hui?
C'est beaucoup de choses, mais je vais insérer quelque chose que tu as dit juste avant, qui je crois est aussi très important quand tu parlais du bonheur. Tu sais, pendant pendant la plupart de l'histoire, le bonheur, c'est quelque chose que tu trouvais au paradis. D'abord, tu souffrais bien sur Terre et quand tu avais bien payé ta dette, tu allais voir comment ça se passe là en haut. Cette notion de la poursuite du bonheur et qu'on se doit d'être heureux, c'est assez récent quand même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que si tu demandes à des parents en Occident qu'est-ce qu'ils veulent le plus pour leurs enfants, ils te disent d'être heureux. Pas de survivre, pas d'être des bonnes personnes, pas d'avoir une vie juste, mais d'être heureux. Et ça, c'est une transformation parce que ça veut dire que pour la première fois, la survie de la famille aujourd'hui, elle dépend essentiellement du bonheur du couple. Il n'y a rien d'autre qui maintient une famille. T'es plus dans l'excommunication de l'Église. Tu as des règles, des lois de divorce. Tu as une indépendance économique quand même beaucoup plus élevée que de toujours.